Question. C'est important, c'est pour ça que je vais revenir. Serait-il possible de repréciser la distinction que veulent faire certains théologiens d'aujourd'hui entre théologie morale de la nature et théologie morale de la personne? Comment découvre-t-on la nature humaine en philosophie éthique? Je reprends. C'est vrai que c'est le gros problème de la théologie morale aujourd'hui. Donc, il faut le comprendre en profondeur pour ne pas tomber dans le panneau. Il y a quelques problèmes actuels, n'est-ce pas? En théologie morale, la théologie morale est un problème difficile aujourd'hui, vous savez bien. Donc ceux qui doivent faire de la théologie morale, on dit qu'il n'y a plus de professeurs de théologie morale. Il n'y a plus de professeurs de métaphysique. Il n'y a plus de professeurs de théologie morale. Voilà, c'est la famine complète. On m'avait demandé, moi, quand j'étais revenu, de passer de la philosophie à la théologie morale. Parce qu'il n'y avait personne. J'ai refusé. Je suis resté en philosophie parce que je savais trop bien les mœurs universitaires. Et quand on passe d'une discipline à l'autre, ça fait pas sérieux. Donc il faut le savoir. Et quand j'avais commencé en philosophie, j'ai continué. Mais ça ne veut pas dire que la théologie morale n'est pas quelque chose de très important. Alors, rappelez-vous, parce que je crois que vraiment, c'est peut-être au plan philosophique le problème sur lequel nous pouvons le mieux saisir l'évolution de notre philosophie occidentale en se faisant nous-mêmes et chacun d'entre nous. Cette petite topique historique sur la personne. Là, je redis certaines choses que j'ai peut-être dites. Je suis en plein dedans à Saint-Jodard. Les pauvres étudiants de premières années ont eu beaucoup de peine parce que j'ai insisté pas mal sur cette topique historique de la personne. Je crois que c'est important. Moi, ça me passionne, ça. Parce que je crois qu'on saisit là vraiment la possibilité de répondre à beaucoup de questions. Alors, à ce point de vue-là, c'est important. Alors, j'essaie simplement de voir comment, en philosophie grecque, au cœur de la philosophie grecque, Platon et Aristote et le néoplatonisme ne peuvent pas nier que c'est quand même le sommet de la philosophie grecque. Heidegger le reconnaît. Et je crois que tous ceux qui font un peu de la philosophie grecque reconnaissent que c'est quand même le sommet. Ces philosophes, Platon et Aristote, sont les philosophes de l'âme. C'est l'âme qui les a inquiétés le plus. Immédiatement après Aristote, le stoïcisme a abandonné ce problème et apparaît à ce moment-là la personne. C'est quand même très curieux. Platon et Aristote ne parlent pas de la personne. Ils parlent de l'âme, de l'homme concrètement. Mais la personne, c'est prosopone, le masque. Donc c'est de l'ordre de la communication. C'est le personnage qu'on joue en face des autres. Je joue le personnage du prophète. Alors j'ai le masque du prophète Amos. Je joue le personnage du sorcier Il y aurait le masque du sorcier. Et ainsi de suite. Le masque traduit la personne. La personne, le personnage. Ce n'est que chez les stoïciens où le mot personne apparaît comme montrant ce qu'il y a de le noyau fondamental de l'homme. Et la personne, c'est la proairesis. La proairesis, c'est le choix personnel. Bien, ensuite, le néoplatonisme va mettre en pleine lumière l'hypostasis. L'union, pour nous, ça dit quelque chose, l'union hypostatique, l'hypostasis, qui sera la personne. Et là, voyez comme c'est curieux. L'hypostasis, c'est la personne au niveau métaphysique. Les stoïciens, c'était la personne au niveau éthique. Et puis, à partir de là, le tremplin. Je dis ça, c'est parce que je crois que là, il y a un petit modèle très très significatif pour nous. À partir de là, chez Plotin, l'hypostasis, les trois hypostases. Les trois personnes. Et parmi ces hypostases, l'âme. Alors faites ce petit schème si vous voulez. Parce que c'est bon d'avoir un petit schème. Il faut s'y référer. Vous avez donc Platon, Aristote, le problème de l'âme. De l'âme immortelle. Parce que c'est ça qu'ils font de point de vue religieux. Ce sont des philosophies qui se réalisent dans un climat religieux. Il faut donner le fondement de l'aspect religieux. Quel fondement de l'aspect religieux? C'est l'âme immortelle. Immédiatement après Aristote, les stoïciens ne parlent plus de l'âme. L'âme disparaît. Donc vous pouvez mettre comme ça. Et puis le mot personne apparaît. Et personne au niveau éthique. Proairesis, le choix. Alors ça, c'est très très net. Chez Épictète. Très très net. Puis ensuite, les néoplatoniciens. Plotin. Et vous avez alors, au-dessus de tout, l'hypostasis. La personne. La personne au niveau métaphysique. Pas métaphysique, puisqu'il parle pas de métaphysique. On va dire la personne au niveau l'autonomie. L'hypostasis. Avec les trois hypostases.
Personne représente.
hypostase, ces trois personnes, et l'âme réapparaît alors qu'elle était évacuée des stoïciens. Elle réapparaît avec le néoplatonisme, puisque le néoplatonisme est en dépendance de Platon. Si maintenant vous regardez les pères de l'Église, les pères de l'Église sous l'influence stoïcienne, sous l'influence néoplatonicienne, sous l'influence surtout de la révélation, les pères de l'Église acceptent l'âme. Aucun père de l'Église nie l'âme. Et les pères de l'Église, de fait, parlent de la personne au niveau éthique et au niveau métaphysique. Mais tous les pères de l'Église aboutissent à Thomas d'Aquin. Le grand problème de Thomas d'Aquin, c'est bien que c'est difficile de savoir quel est le problème fondamental. Quel est le problème fondamental de Thomas d'Aquin ? Eh bien, je crois qu'on pourrait dire que la théologie de Thomas d'Aquin, c'est la théologie de la personne. Je crois. C'est peut-être cela qu'il y a de plus original et de plus important dans Thomas d'Aquin. C'est qu'il a fait une sorte d'harmonie, beaucoup plus que d'équilibre, au niveau de la personne. La personne, en prenant la définition de Boès, je ne sais pas combien de fois, ce serait une petite thèse amusante à faire, combien de fois saint Thomas cite Boès. Ça, c'est un fil conducteur à travers tout saint Thomas. Ce serait très amusant de voir la manière dont saint Thomas commente Boès, depuis le commentaire des sentences jusqu'à la fin. C'est facile à faire, ça. Quelqu'un qui a un petit peu d'amusement à faire, n'est-ce pas ? Proposer ça comme petite. Et c'est très significatif. Je suis persuadé que c'est un fil conducteur merveilleux pour essayer d'aboutir à quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que dans la somme théologique, on voit bien que la personne joue le rôle clé. À ce point de vue-là, vous voyez, c'est pas du tout aristotélicien. Très intéressant. Saint Thomas est très libre. Mais le problème de la personne va être avant tout le personne, les trois personnes de la Très Sainte Trinité. C'est ça avant tout. C'est dans les trois personnes de la Très Sainte Trinité que Saint Thomas montre son génie à l'égard de la personne. Et puis le mystère de l'union hypostatique. Mystère du Christ. L'union hypostatique. L'union dans la personne. Le Verbe qui se fait chair. Ceci, c'est la personne transposée au niveau de l'autonomie, au niveau de l'être. Le problème de la subsistance. La substance, c'est l'hypostase. C'est pas la traduction directe, mais c'est la même chose, la subsistance ou l'hypostase. C'est tout le problème de la subsistance. Comment saint Thomas montre que la personne subsiste ? Et en même temps, le problème de l'imago Dei. L'imago Dei, qui elle-même est une personne. Je crois que ce qui caractérise la pensée de saint Thomas, c'est donc d'avoir l'équilibre entre le problème de l'âme et le problème de la personne. On ne peut absolument pas séparer les deux. La morale de saint Thomas, c'est la morale de l'imago Dei. De l'image de Dieu. Ça, l'imago Dei. Ça, c'est bien net. Alors, l'imago Dei implique l'âme. L'imago Dei implique la personne. C'est donc la morale de la personne. C'est une personne qui assume la nature. L'opposition entre personne et nature, ça n'a aucun sens, chez saint Thomas. Alors, comment après ça, c'est que de fait, donc, premier moment, A, B, et la topique historique des pères de l'Église et des théologiens connaît son sommet en saint Thomas. Ça, je crois, c'est assez net à comprendre. Après saint Thomas, il y a des agrégations. Et pour le problème de la personne, ce serait très intéressant à voir. Et le problème de l'âme et de la personne. Ce qui est sûr, c'est que si nous prenons le troisième moment, c'est Descartes, la libération de l'entendement, de la raison par rapport à la foi. C'est ça que fait Descartes, par le problème de la certitude. Chez Descartes, qu'est-ce qu'il y a comme problème foncier? C'est le problème de la subjectivité qui va commencer. C'est le problème de l'idée. Les idées d'infini et de perfection qui va être au centre. Vous voyez, l'idée, ce n'est ni l'âme, ni la personne. C'est l'aspect subjectif. Parce que l'idée, c'est mon idée. C'est ça qui domine dans l'idée. C'est le problème de la signification imposée aux choses. Donc, ça commence à partir de moi-même. C'est le problème de l'idée qui va, de fait, s'enraciner dans une âme, dans une substance pensante. Alors là, je retrouverai le problème de l'âme. Mais ça n'intéresse pas tellement Descartes. Et le problème de la personne non plus. On ne peut pas dire que c'est le problème cartésien. C'est très curieux. C'est le problème de l'idée. Descartes, Kant, Hegel. Hein, les trois grands. Les trois grands au niveau des idées, de la forme a priori, subjectivité transcendantale et du développement d'idées. Ce qui est très curieux, alors, et ça, alors je crois que ça, c'est très important à noter, c'est que progressivement, le problème de l'âme disparaît. Le problème de l'âme n'est plus en acte dans la philosophie contemporaine. On voudrait le rayer. Parler de l'âme. Vous voyez, et avec l'avortement, le problème de l'avortement qui quand même pose quelques petits problèmes aux théologiens, bien, on ne doit pas traiter de l'avortement par rapport à l'âme, mais par rapport à la personne. Ce qui maintient le flou. Parce qu'il est évident que l'embryon n'est pas une personne. Alors dire personne métaphysique, il a une âme, c'est ça qui est important. Vous comprenez que la personne, est-ce que Dieu crée des personnes? Ou est-ce que Dieu crée des âmes qui vont impliquer la personne? On noie le poisson par le point de vue de la personne. Alors ça, c'est très très curieux. Et ce serait intéressant de voir à quel moment exact, comme pour les stoïciens, le problème de l'âme disparaît et est remplacé par le problème de la personne. Vous voyez, dans Husserl, c'est le problème de la personne. C'est pas le problème de l'âme. C'est le problème de l'intentionnalité des idées avec le nœud qui fait l'unité et qui est alors le problème de la personne. Si je prends le problème des idées, j'aboutis au problème de la permanence du jeu qui sera le problème de la personne au-delà du point de vue psychologique. Alors ça, c'est très curieux de voir que le problème de l'âme disparaît. Alors, est-ce que le problème de l'âme a disparu parce que le problème de la substance disparaît ou l'inverse? Ça, je pourrais pas vous le dire, mais cherchez, c'est intéressant. Vous voyez bien le problème, c'est d'abord la substance qui disparaît. Et parce que la substance disparaissant, l'âme disparaît. Ou est-ce que c'est d'abord le problème de l'âme qui disparaît et le problème de l'âme disparaissant, la substance disparaît. Ça, il faut se poser la question. Parce que c'est intéressant de voir cette espèce de chute verticale où on ne parle plus de l'âme. Je ne croyais pas à ce point-là. Mais je l'ai vu, je l'ai constaté. On ne peut plus parler de l'âme. Dans un milieu philosophique et de philosophes chrétiens. Ce qui est le mieux. On ne peut plus parler que de la personne. Ça, c'est net. Il y a un index là-dessus, on ne peut plus parler de l'âme. Alors, à quel moment, je vois très bien comment l'idée relativise la substance chez Descartes et comment la substance va disparaître. Regardez la substance, le problème de la substantialité chez Hegel, hein, c'est très relativisé. Et regardez, à la suite de Hegel, Husserl, c'est le problème de la personne. Il y a comme une espèce de métaxu qui fait perdre la substance, c'est l'idée. C'est l'idée première qui fait disparaître le problème de la substance, c'est le problème de l'âme. Et l'idée ne fait pas disparaître la personne. Et c'est pour ça que la philosophie contemporaine ne verra plus que le problème de la personne, en faisant disparaître complètement le problème de l'âme. Oui, alors, c'est ça qui me semble intéressant à voir. Et ça, on le constate. Il suffit de regarder avec un peu d'intelligence ces trois grands moments. Parce qu'au fond, il y a trois grands moments, hein, si on veut être un tout petit peu dans... Essayer de comprendre ce que nous vivons. Il y a ces trois grands moments. Alors, évidemment, il y a toujours eu le petit filet thomiste qui a continué. Hein. Contre Descartes, il y a eu Suarez, la scolastique suarezienne, la scolastique décadente. Elle continue de parler de l'âme. On fait des congrès thomistes internationaux sur l'âme. Enfin, ça se fait. Et on invite un évêque pour bien montrer qu'on peut encore parler de l'âme, puisque le concile en a parlé. Et en même temps, les philosophes par derrière s'amusent en disant, l'âme, on n'en parle plus. Elle est dans le musée des théologiens. Elle est dans le musée thomiste. C'est extrêmement curieux, ça, de voir qu'il y a là quelque chose qui a disparu. On n'a pas le droit. Donc, on doit autant, au plan philosophique, dire on n'a pas le droit de laisser disparaître l'âme. Et c'est pas l'être qui a été oublié, c'est l'âme. Heidegger dit que c'est l'oubli de l'être, mais non, c'est l'oubli de l'âme. Notre monde est un monde qui oublie l'âme. Et les philosophes l'ont oublié, et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'âme. Dans notre monde occidental. C'est ce qui frappe tous ceux qui viennent de l'Inde. C'est la première chose qui les frappe. Il n'y a plus d'âme. Parce que la personne, ça peut être très matérialisé. C'est un tout. C'est un sujet radical. C'est le responsable des droits. Ça, je crois qu'il faut le sentir très très fort. C'est pour ça que le problème de la personne est si important. Alors, vous comprenez qu'en face de cela, une théologie, à partir de Karl Rahner, puisque Karl Rahner dit nettement que la théologie contemporaine remplace la métaphysique par l'anthropologie. Ça, il le dit. Même si lui-même prétend qu'il n'a pas de philosophie propre. Puisqu'il le dit. Il dit que le propre de la théologie moderne, contemporaine, c'est d'avoir remplacé remplacer la métaphysique par une anthropologie. C'est-à-dire de remplacer le problème de l'âme par le problème de la personne en théologie morale. La théologie morale va être une théologie de la personne, oubliant l'âme, et en oubliant l'âme, oubliant la nature. Parce que si je parle de l'âme, je maintiens encore la nature. La nature implique corps et âme, la nature humaine. Tandis que si je supprime l'âme, il n'y a plus de nature. Il n'y a donc plus le problème de la personne. Alors, vous comprenez qu'à partir de là, je vois très bien comment on dira la nouvelle théologie morale est une théologie de la personne. C'est-à-dire une théologie morale qui regarde avant tout la responsabilité de l'homme. Mais responsabilité de l'homme dans sa conscience. Et selon les circonstances dans lesquelles il se trouve, on acceptera encore la finalité, parce que la personne implique l'esprit, implique l'intelligence et le cœur. Donc il y a encore le point de vue de la finalité. Et ce sera une morale de la responsabilité, de la conscience, de la liberté. C'est avant tout cela. Et d'une certaine manière de l'amour. Et on opposera cette morale-là à la morale dite traditionnelle de saint Thomas, qu'on va étiqueter de morale de la nature. Pourquoi ? Parce que cette morale de saint Thomas s'appuie sur l'âme. Et que la définition de saint Thomas de la personne implique une nature rationnelle, substance individuelle dans une nature rationnelle. Et c'est ça qui spécifie la personne, définition de Boëls. Et donc c'est cette nature rationnelle qui va caractériser la morale de saint Thomas. Alors qu'est-ce qui caractérise une morale dite morale de la nature ? À la différence de la morale de la personne. La morale de la nature, c'est une morale objective. Parce que la nature est objective. Tandis que la personne, ce n'est pas l'objectivité qui est première, c'est la subjectivité qui est première. La personne se meut, elle a ses responsabilités, elle se choisit sa fin, proirésiste, elle choisit librement sa fin. Et elle se décide de prendre telle ou telle orientation. Et donc, quand je parle de la morale, de la fin, par rapport à la personne, je donne au mot fin un sens tout à fait nouveau, puisque c'est moi qui me détermine ma fin. Alors, quand je parle de la morale fondée sur la nature, la fin est imposée en fonction de la nature. Je la découvre. Je la choisis, mais je la découvre en réalité. Et la fin est un bien qui existe avant que je la choisisse. Et la morale, donc, de la nature est une morale qui implique les limites de la nature, les déterminations de la nature. C'est une morale qui est morale qui est à la recherche de notre propre béatitude, une béatitude qui s'impose à nous en fonction de notre nature rationnelle. Tandis que la morale de la personne, c'est une morale de la liberté, où je choisis moi-même l'orientation de ma vie. En gros, c'est cela, mon opposé d'eux. Bon, une fois qu'on a compris ce, très rapidement, ce petit cheminement de la pensée moderne, vous comprenez que je n'ai pas le droit d'accepter cette séparation et cette division. Puisque la personne humaine implique nécessairement l'âme et la nature. Je dois donc essayer
accepte la personne, je sais pas, je peux très bien
poser le problème de l'âme tout de suite. À partir des études biologiques d'aujourd'hui, je peux très bien me reposer le problème de l'âme. Le biologiste comme tel, le savant biologiste comme tel, ne peut rien dire de l'âme. Il ne sait pas si elle existe ou elle n'existe pas. La science biologique ne peut rien nous dire de l'âme. Et le philosophe doit rechercher qu'est-ce que c'est que l'âme. C'est même son grand problème. Et par là, il fonde une éthique personnaliste. Et l'éthique est toujours personnaliste. Il ne faut pas chercher une éthique naturelle, avec la loi naturelle. Non, non, vaut mieux pas. Il vient de paraître un petit livre posthume de Maritain, la loi naturelle. Alors, si j'ai le temps, je vais le lire, puis je vous en dirai. Parce que c'est intéressant. Je ne crois pas du tout qu'on doit faire une loi naturelle tout de suite. Vous voyez, c'est très délicat, la question de la loi naturelle. Très, très délicat. Et de plus en plus délicat. J'aime mieux découvrir l'âme, la personne, pour fonder mon éthique. Mon éthique n'est pas fondée sur la loi naturelle. Heureusement pour l'éthique. Malheureusement pour la loi naturelle. Parce que la loi naturelle, c'est tellement difficile de savoir exactement ce que c'est. Vous voyez ? Cherchez le bien, évitez le mal. Mais comme le bien est tellement varié selon les différents hommes et suivant les époques, ça ne dit pas grand-chose. Cherchez le bien, évitez le mal. C'est vite fait et c'est vite dit. Tandis que chercher ce que c'est que l'âme humaine et la finalité de l'âme humaine, c'est très très différent. Donc voyez le parcours qu'on devrait prendre. Et ça me semble absolument nécessaire. Alors, quand je me repose le problème de la personne, puisque c'est là, nous y sommes, hein, le problème de la personne, je vois que le problème de la personne a été au sommet de la pensée de saint Thomas. C'est pas l'être qui est le sommet de la pensée de saint Thomas. C'est la personne. Voyez, vous allez me dire, dans l'ordre de l'analyse, c'est l'acte. Tout à fait d'accord. Mais en vue de connaître ce qu'est la personne, quand je dis sommet de la personne, c'est pour mieux connaître ce que c'est que l'homme. Et l'homme, je le connais en tant qu'il est une personne. Alors le sommet, c'est-à-dire la partie principale, si vous voulez, vers laquelle je reviens tout le temps, c'est la personne humaine. C'est un petit peu comme pour le Saint-Père, c'est la personne humaine qui l'intéresse avant tout. Et à ce point de vue-là, il est très proche de saint Thomas. Parce que c'est ça qui intéresse un philosophe, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'homme et qu'est-ce que c'est que la personne humaine. Et dans la mesure où on voit que la personne humaine est en train de se fourvoyer, le philosophe ne cesse d'être en colère parce qu'il veut remettre la personne humaine dans le bon chemin. C'est-à-dire lui rappeler ce pourquoi elle est faite, tout simplement. Alors, en réfléchissant sur ce problème de la personne à travers les philosophes de l'Occident, je m'aperçois que de fait, le problème de la personne s'est posé à deux moments décisifs. Comme le problème hypostasis et le problème progressis. Le problème du choix et le problème de l'autonomie. Je crois que ça, c'est très très significatif et extrêmement intéressant. Ici. Et ici. Perspective très très différente. Et si je suis attentif à la pensée de saint Thomas, je vois qu'en effet, chez saint Thomas, le problème de la personne est toujours traité de deux manières, au niveau éthique et au niveau métaphysique. Alors, je dois me poser la question, puis-je faire la synthèse de ces deux? Ou, au de deux manières différentes. Pas analyser, regarder, constater de deux manières différentes. La personne au niveau éthique. La personne au niveau métaphysique. La personne vue dans la lumière de l'être. La personne vue dans la lumière du bien. Les deux grands axes qui me permettent de réfléchir sur la personne. Je dois regarder la personne dans la perspective de l'être. Quel est l'être de la personne? Et la personne dans l'axe du bien. Le vécu de l'amour. C'est très curieux. Ces deux aspects sont irréductibles. Je ne peux pas les unir. Je voudrais bien. Il n'y a qu'en Dieu où être et bien ne font qu'un. En moi, être et bien, ça ne fait pas qu'un. Je sais très bien. J'existe. Mais je ne suis pas toujours bon. Je suis bon par moment. Tandis que j'existe tout le temps. Et j'existe de temps en temps de mauvaise humeur. C'est bien évident. Je ne suis pas bon. Il y a les deux aspects. Eh, très bien. Or, c'est très curieux. Je vous ai déjà dit, je crois que être est bien. La tension entre l'être et le bien, ça a été le grand problème de Thomas d'Aquin. Vous voyez comment on retrouve la personne. Le grand problème de Thomas d'Aquin, c'est de montrer comment la ratio entis, l'être, dans ce qu'il a de plus lui-même, et la ratio boni, le bien, dans ce qu'il a le plus lui-même. Quelle est la relation entre les deux? Ils sont convertibles. Donc, au niveau critique, au niveau de la rationnesse, au niveau de leur détermination fondamentale. Et cependant, ils sont distincts. L'être a une priorité du côté de l'intelligibilité et le bien a une priorité du côté de l'exercice. L'être n'a pas une priorité absolue. Et donc, à côté de l'être, il y aura toujours, toujours le point de vue du bien. Je ne peux pas ramener toute la philosophie à la métaphysique et je ne peux pas ramener toute la philosophie à l'éthique. Il y aura toujours en philosophie ces deux grands aspects, métaphysique, éthique. Et je crois que c'est cela que saint Thomas a saisi, d'une façon toute nouvelle, comparativement à ses devanciers, et qui a été le génie de saint Thomas. Qu'Aristote ne se posait pas, parce que les néoplatoniciens n'étaient pas encore là. Et c'est là où saint Thomas comprend comment, du côté de l'être, on définira la personne comme ce qui subsiste spirituellement. Et du côté du bien, on définira la personne comme celle capable de bonheur. La personne seule est capable de bonheur. Et donc d'atteindre une fin qui lui est propre et de vivre de cette fin. Vous voyez comme c'est étonnant ça. Et vous voyez que vous ramenez ça à Energeia, Entelegeia. Pour ceux qui connaissent un peu Aristote, Energeia, c'est l'être en acte. Et Entelegeia, c'est l'opération qui me permet d'atteindre cette fin et qui est ma béatitude. Alors là, je crois qu'on touche très profondément le grand problème qu'on doit se poser tout le temps, tout le temps. et comment l'éthique doit elle-même s'achever dans le problème de la personne. Je pourrais me demander si les autres parties de la philosophie vont s'achever aussi dans le problème de la personne. Ça, c'est une autre histoire. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que, historiquement, ça a été toujours les deux grands problèmes de la personne. Les deux problèmes dominants. La personne dans son autonomie face à l'être. La personne face au bien dans le vécu. C'est-à-dire qui atteint sa fin. Alors vous voyez, si je comprends un peu ce problème-là, je vois que c'est vraiment ce problème de la personne qui me permet à la fois